Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Le 13-14 à Mamers dans la Sarthe aujourd'hui, au supermarché et à la station-service. Nous sommes pour l'instant à la pompe, tout près du Totem, le grand panneau qui donne les prix des carburants. Aujourd'hui, 1,77 le sans-plomb, 95, 1,80 le diesel. Ça va mieux depuis vendredi et la ristourne de 15 à 18 centimes. La journée a été dingue, Véronique est la caissière de la station.
C'était du caviar pour la voiture. Ça fait quand même des années que je fais ce boulot. Ah, c'est bien la première fois qu'on vend autant de litrage dans un week-end.
Et ça continue depuis ici au Super U de Mamers, entre la pompe et les rayons alimentaires. On examine chaque prix, on regarde attentivement les promos, on compare avec la concurrence. Le pouvoir d'achat au cœur de ce 13-14, quel est l'impact des différentes hausses depuis l'année dernière? Que proposent les candidats? Nous sommes au plus près du chariot de supermarché et de ceux qui les poussent jusqu'à 14h. Et bien sûr, dans le 13-14, le journal à Paris. C'est avec Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour Bruno, bonjour à tous. En Ukraine, face à la Russie, accusée d'exactions contre les civils et qui parle de mise en scène, vous entendrez le témoignage glaçant d'un homme. Il a failli mourir, tué par l'armée russe. C'était au début de l'offensive en Ukraine, au nord de Kiev, à Brovary. L'armée russe se concentre désormais sur l'est du pays. Les autorités ukrainiennes implorent les civils de quitter la zone, tandis que la ville martyre de Mariupol semble sur le point de tomber. Des nouvelles du Covid. Dans ce journal, le pic du rebond de l'épidémie est passé. Pourtant, le gouvernement ouvre la possibilité d'une quatrième dose de vaccin pour les plus de 60 ans. On vous explique tout ça. La campagne à 3 jours du premier tour de la présidentielle. Nous passerons au crible les propositions des candidats sur le pouvoir d'achat. Nous irons en Corrèze où dans certains villages, il n'y a toujours aucune affiche sur les panneaux électoraux. Et puis le sacre de Big Benz, la planète football vibre pour Karim Benzema, auteur d'un triplé hier avec Madrid face à Chelsea.
Et juste avant 14h, Corinne, après avoir longuement parlé de pouvoir d'achat, une initiative ici à Mamers, une famille d'Ukrainiens accueillis chez des particuliers. Ils viennent de Gostomel et Boutcha. Nous verrons comment se passe leur intégration. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Et pour mesurer à quel point le pouvoir d'achat est une préoccupation, presque une obsession, nous allons vous raconter la journée de vendredi ici, alors qu'un camion passe tout près de nous sur le rond-point près de la station. Vendredi, c'était l'entrée en vigueur de la ristourne de 15 à 18 centimes sur le litre de carburant. Journée de ruée à la pompe. Et ça continue depuis. Bonjour Faustine Kelmen.
Bonjour.
Faustine, vous nous accompagnez ici à Mamers. On entendra vos reportages tout au long de cette émission. Depuis vendredi, Magali et Véronique, les deux caissières de la station, sont en première ligne.
Elles se succèdent dans leur guérite derrière la vitre en plastique de 8h à 19h. Et en 30 ans de guichet ici, Véronique et Magali n'ont jamais vu ça.
Depuis vendredi 8h, moi j'étais là à l'ouverture, ça a été une folie, et on était un peu les moins chers de la région. Le prix du carburant dans les 20 km dans les environs, et les gens regardent ça, et donc oui, on a fait des grandes journées. Moi et ma collègue, c'était un peu dur, mais ça l'a fait. Je pensais que ça allait se calmer, hier c'était un petit peu plus calme, mais là aujourd'hui, ça continue. Depuis 8h ce matin, c'est du non-stop.
Avec dans leur voiture des clients parfois un peu ronchons, grimaux, dit Véronique.
Compliqué. Beaucoup de réflexions qui ne sont pas spécialement attribuées à nous, mais bon, on sent bien les gens un peu agacés, quoi. C'est la hausse du carburant a fait que ça a fait grincer quelques-uns quand même. Hein. Même si les moins grimaux ont été un petit peu. Après, on les comprend. Hein. Nous aussi, hein, quand on passe à la caisse, on se dit oh là, ça fait un peu cher quand même le plein.
Ici, au guichet, il faut donc absorber les mauvaises humeurs et toujours expliquer et réexpliquer.
C'est affiché. Ah bon. Oui, c'est réduit déjà au prix d'affichage.
Ah ben c'est bien.
Tout à fait.
Bon, je vais prendre 3000 litres.
Oui, pourquoi pas. Vous pouvez en profiter. Il y a 15 centimes jusqu'au mois de juillet.
Oui. Bonjour monsieur. Alors du gasoil pour 12,99€ s'il vous plaît.
2, 4, 6. 12 et 13.
De plus en plus d'automobilistes ne font pas le plein, mais des compléments. Au volant, Pauline réduit ses déplacements parce que la remise du gouvernement.
Je ne sais pas quel magasin l'a fait. Parce que là, je vois, enfin, j'arrête à Carrefour, il était à 1,90. Je vois pas aller où la réduction des 15 centimes, personnellement. Et c'est pas 15 centimes qui va faire quelque chose. Enfin, faut faire bouger les choses à un moment donné.
Et c'est pour ça, justement, pour son pouvoir d'achat, qu'elle ira voter ce dimanche.
À mes côtés, après ce reportage de Faustine Calmel, Patrice Guérin, propriétaire avec son épouse Fanny du Super U de Mamers. Bonjour Patrice Guérin.
Bonjour Bruno Devic.
Alors quand les camions citernes vous livrent, c'est 57 000 litres, c'est ça?
C'est exactement ça, 57 000 litres à chaque
vendredi,
livraison.
Vendredi, deux livraisons?
Deux livraisons, puisque le carburant descendait très très vite et on a vendu plus de 100 000 litres en trois jours.
Et vous avez dû faire la circulation sur le rond-point à côté, là tellement il y avait de monde.
Exactement, à plusieurs reprises. Oui.
Alors le carburant, vous l'achetez à un intermédiaire, vous êtes groupé je crois avec Leclerc?
C'est ça, on l'achète en fait à un groupement qui s'appelle Synergie. Ensuite, on essaye de le trouver au meilleur prix dans la meilleure raffinerie.
Voilà.
Pour le transport le moins coûteux, pour le vendre au moins cher ensuite à nos clients.
Et intermédiaires et transporteurs, c'est des négociations qui ont lieu tous les jours. Ça veut dire que les prix bougent tous les jours?
Les prix bougent tous les jours et chaque matin, on se connecte à 9h30 pour avoir le tarif du jour avant de commander.
Donc là, c'est plutôt à la baisse. C'est monté, vous me disiez tout à l'heure, c'est monté jusqu'à 2,40 € le litre et le sans plomb à 2,17 €, c'est ça?
C'est ça, il y a à peu près 3 semaines. Et là, effectivement, on a une tendance à la décrue depuis quelques jours.
Oui.
Et plus les 15 centimes, ça fait du bien.
Ce qui est important de dire, c'est qu'ici à Mamers, on est entre Alençon et Le Mans. Il faut quoi? Une demi-heure pour Alençon, trois quarts d'heure pour Le Mans.
Exactement.
Et il faut la voiture pour tout. Donc l'essence, c'est très important.
Exactement, dans nos zones rurales, chaque village est éloigné et effectivement la voiture est un indispensable. Et beaucoup de moteurs thermiques encore.
Et beaucoup de moteurs thermiques. Le carburant à 1,77, votre marge à vous, propriétaire de Super U là-dessus?
Alors, elle est simple, on communique beaucoup. Sur 1,77, il y a 1 euro de taxe de ouais. l'État. Ensuite, il y a le prix du carburant, le prix du transporteur, le ouais. monsieur qui va venir nous le livrer. Et nous, la marge, elle est de 2 centimes.
2 centimes.
2 centimes par litre.
Il vous reste 2 centimes pour payer.
Bah, payer Véronique ouais. et puis Magali que vous voilà. avez entendu tout à l'heure. Pour payer aussi tous les contrôles et l'entretien, c'est à peu près 50 000 euros à l'année de frais.
Donc, c'est pas forcément le coin le plus rentable de ce Super U, mais le carburant, c'est un produit d'appel.
C'est exactement ça. C'est un produit d'appel. Si vous n'avez pas de station, les clients ne viennent pas chez vous. Donc, c'est effectivement un produit pour faire venir nos clients sur notre zone et éviter l'évasion vers les grandes villes.
Ça veut dire que vendredi, par exemple, et samedi, non seulement il y a eu beaucoup de monde à la pompe, mais vous aviez beaucoup de monde au supermarché, là, qui a une encablure et on y ira tout à l'heure.
Alors d'abord, d'une part, parce qu'on était très 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 bien positionné en prix, mais surtout, c'était le début du mois et donc ça se ressent évidemment dans les magasins.
Quand vous dites positionné en prix, ça veut dire que vous regardez ce que font les concurrents et que vous adaptez votre prix ou non? C'est vraiment la négociation avec l'intermédiaire et la raffinerie?
Bah, c'est surtout plus la négociation avec l'intermédiaire et la raffinerie oui. et acheter au bon moment, au bon prix. Parce que malheureusement, on n'a pas de marge de manœuvre.
Et les gens regardent ici entre les applis et la radio locale, Sweet FM, qui donne les prix un peu partout. On se retrouve tout à l'heure au supermarché, Patrice Guérin. On se baladera dans les rayons. Pour l'instant, c'est le journal dans ce 13-14. C'est avec vous à Paris, Corinne Audouin, l'Ukraine.
Oui, la guerre en Ukraine, Bruno, c'est aussi depuis le début de l'offensive russe, la guerre de l'information. Le régulateur des communications russes prend des mesures de rétorsion contre Google, accusé de diffuser de fausses informations sur le conflit, visées notamment par les Russes, les images de dizaines de civils tués dans le nord de l'Ukraine, dans les zones quittées par l'armée russe. Et à Paris, le Quai d'Orsay convoque l'ambassadeur de Russie en France. Le compte de l'ambassade a publié un tweet qualifiant la ville de Boutcha de plateau de tournage. Une communication qualifiée d'indécente par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Car au-delà des images, il y a aussi les témoignages glaçants, comme celui de cet homme. Il a bien failli mourir entre les mains de l'armée russe. C'était à Brovary, dans le nord-est de Kiev. Thibault Lefebvre l'a rencontré.
3 jours de combats violents, c'était les premiers 2 et 3 mars. Vyacheslav se réfugie dans une cave, puis une accalmie, la nourriture et l'eau qui manque. Il faut aussi essayer de trouver du réseau téléphonique. Le 7 mars, il décide de quitter l'abri avec son voisin Oleg.
Nous sommes sortis dans la rue Pushinskaya. On a vu des blindés détruits, la rue était dévastée. Et les soldats russes sont apparus. Ils ont tiré en l'air, nous ont insultés, nous ont ordonné de s'approcher d'eux. On a levé les bras, on a marché au pas dans leur direction. Il y a eu des coups de feu. On s'est jeté à terre. Un des soldats s'est approché de moi et a mis son pied sur ma poitrine et son fusil sur mon front. Et puis il a tiré, juste à côté de mon oreille. Il m'a mis un couteau sous la gorge et il m'a dit qu'il allait m'égorger d'un coup. J'ai ensuite entendu une rafale. Je n'ai rien vu, mais à ce moment-là, ils ont tué Oleg.
Vyacheslav a été laissé libre pour qu'il raconte à ses voisins déjà terrorisés la menace que les Russes font peser sur les civils. Un mois, jour pour jour, après avoir frôlé la mort, il est à Kiev sous traitement.
Thibault Lefèvre avec les moyens techniques de Benjamin Thuot. L'offensive russe, elle, se concentre désormais sur l'est de l'Ukraine et les autorités exhortent les habitants à fuir le Donbass. Les prochains jours sont peut-être la dernière chance pour partir, implore le gouverneur de la région de Louhansk, qui veut à tout prix éviter un deuxième Mariupol. Mariupol, ce port stratégique du sud-est du pays, assiégé depuis un mois, où plus de 100 000 habitants sont affamés et pris au piège. Mariupol peut être bientôt aux mains des Russes. Ce matin, le porte-parole de la République séparatiste de Donetsk assure que la ville est sous contrôle russe. Mariupol est-elle tombée? Difficile de savoir quelle est exactement la situation sur place. On fait le point avec nos envoyés spéciaux dans le sud de l'Ukraine, Arthur Gerbeau et Marie-Pierre Véraud.
Il est très difficile de vérifier les informations sur la situation dans cette ville si stratégique de Mariupol. Le conseiller politique du maire, Petro Andrushenko, dément formellement que sa ville soit tombée. Nous ne souhaitons même pas commenter un tel tissu de mensonges, ajoute-t-il. Le conseiller du président Zelensky assure lui aussi que Mariupol tient et que le gouvernement ukrainien s'emploie à soutenir les forces sur place. Des combats très violents se concentreraient depuis deux jours dans le secteur du port où les forces ukrainiennes se sont repliées. La bataille finale semble engagée, car si Mariupol tombe, la Russie disposera de cette bande de territoire qu'elle convoite tant le long de la mer d'Azov et qui relierait la Crimée, annexée en 2014, aux républiques séparatistes de Donetsk et Louhansk. La Russie qui entend élargir aussi son emprise sur l'Est afin de s'emparer de l'entièreté du Donbass. On se prépare sur place à une offensive majeure, d'où les appels lancés aux civils par les autorités ukrainiennes pour qu'ils évacuent au plus vite cette région. À Mariupol, ils ne le peuvent que très difficilement, on le sait, car la Russie contrôle tous les abords de la ville. Mariupol où les victimes se compteraient par milliers. Mariupol d'où les dernières nouvelles ajoutent à l'horreur. Selon la municipalité, les Russes y ont acheminé des crématoriums mobiles pour brûler les cadavres de civils et effacer les traces de leurs exactions. Dans le sud de l'Ukraine, Arthur Gerbeau, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Et que faire pour arrêter l'horreur en Ukraine? L'Union européenne pourrait s'accorder dès aujourd'hui ou demain sur un cinquième train de sanctions à l'encontre de la Russie. Le G7 demande la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et le vote des Nations Unies est prévu cet après-midi. C'est à vous, Bruno.
Corinne. Oui, 13h12, Corinne, sur France Inter, on a quitté la pompe, on s'est installé au supermarché et je vous relance pour votre journal, la dernière vague de Covid en train de décroître.
Oui, nous avons dépassé le pic du rebond de l'épidémie, c'est Olivier Véran qui le dit. Le ministre de la Santé précise que le nombre de contaminations journalières est en légère baisse depuis 5 jours, autour de 150 000 nouveaux cas quotidiens. Serons-nous bientôt libérés du Covid? Pour ceux qui le souhaitent, la deuxième dose de rappel du vaccin va être ouverte aux personnes âgées de 60 ans et plus. Jusque-là, elle n'était autorisée que pour les plus de 80 ans. Et précision importante, Victor Dolande, vous nous avez rejoint dans ce studio. Bonjour.
Bonjour, Corinne.
Il ne s'agit pas d'une recommandation, mais d'une simple possibilité.
Oui, très concrètement, ça veut dire que si vous avez fait votre première dose de rappel il y a plus de 6 mois, vous pouvez dès aujourd'hui prendre un rendez-vous pour la deuxième injection de rappel. Je répète, c'est une possibilité. Il n'y a aucune obligation de le faire pour mettre à jour votre passe sanitaire. Pour le moment, cette mesure concerne 500 000 Français de plus de 60 ans qui sont à 6 mois ou plus de leur dernière injection. Si le gouvernement le propose, c'est pour faire remonter la protection vaccinale qui diminue au fil des mois après une première dose de rappel chez les sujets les plus âgés. On constate en effet une légère augmentation des hospitalisations chez les 60-79 ans qui ont fait leur première dose de rappel à la fin de l'année 2021. Cette proposition du ministre de la Santé va toutefois à l'encontre de la recommandation de l'Agence européenne des médicaments qui estimait hier que cette nouvelle dose de rappel pour les plus de 60 ans est encore prématuré. Enfin, dernière précision, pour les plus de 60 ans qui ont été contaminés par le Covid, 3 mois après leur premier rappel, dans ce cas-là, le deuxième rappel, pour le moment, n'est pas nécessaire.
Et j'espère que tout le monde a pris des notes. En Allemagne, le gouvernement échoue à faire voter la vaccination obligatoire à partir de 60 ans. On s'en souvient, cet incendie avait fait 8 morts, dont un bébé et un enfant de 2 ans, à Saint-Laurent-de-la-Salanque, dans les Pyrénées-Orientales. C'était le 13 février dernier. 3 hommes ont été interpellés et placés en garde à vue ce matin, dans le cadre de l'enquête pour dégradation par incendie ayant entraîné la mort et des blessures. Parmi les suspects, un commerçant de la rue où s'est déclaré l'incendie.
Il est 13h14 sur France Inter, le 13-14 entre Paris et Mamers dans la Sarthe, au supermarché pour examiner ce thème du pouvoir d'achat. Et France Inter, à 3 jours du premier tour de la présidentielle, continue de scruter les programmes des candidats à la loupe. Alors le pouvoir d'achat aujourd'hui, les prix des carburants très hauts malgré la ristourne du gouvernement, l'inflation qui galope. Quelle proposition ? Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Que proposent les 12 prétendants à l'Élysée pour redonner un peu d'air aux Français ?
Bien d'abord, tous ou presque promettent d'augmenter les salaires, avec tout de même une grande différence entre les candidats. Sur le financement, ceux de droite proposent en gros d'y arriver par des baisses de cotisations sociales et donc par des baisses de salaires différées, quand ceux de gauche jurent que cela se fera sans toucher à la fiscalité des salariés. Tous ou presque, donc, je vous le disais, puisqu'Emmanuel Macron est en fait le seul à ne pas promettre de hausse de salaire. Le président sortant veut à la place tripler la prime dite Macron, théoriquement jusqu'à 3 000, voire 6 000 euros dans certains cas très spécifiques.
Et quelles sont les autres mesures phares des candidats, Simon ?
Eh bien, face au président candidat qui défend ses mesures contre la hausse des prix, c'est haro sur la TVA. Valérie Pécresse veut la baisser de 20 à 5% sur l'électricité. Anne Hidalgo propose de la réduire pour l'électricité également, mais aussi pour le gaz et l'essence en cas de flambée. Fabien Roussel aussi défend une baisse des taxes sur les tarifs de l'énergie, de même que Jean Lassalle. Même chose chez Jean-Luc Mélenchon et chez Marine Le Pen, qui veulent réduire pour le premier, voire supprimer pour la seconde, la TVA pour les produits de première nécessité. C'est le cas aussi de Philippe Poutou, le candidat du NPA. Quant à Nathalie Arthaud, elle plaide pour une suppression pure et simple de cette taxe, sauf sur les produits de luxe. Yannick Jadot, lui, veut la réduire, cette TVA, pour les produits réparables et les transports collectifs, et même la supprimer pour les produits bio. Nicolas Dupont-Aignan veut mettre fin à la TICPE, la taxe notamment sur les carburants. Quant à Éric Zemmour, enfin, il propose que les entreprises prennent en charge une partie des frais d'essence des salariés entre leur domicile et leur travail.
Et le pouvoir d'achat, on en reparle dans une poignée de minutes avec nos invités ici au Super U de Mamers. Pour l'instant, à 13h16, Corinne Audouin, autre éclairage sur cette campagne électorale.
Oui, dans cette campagne atypique, hein, Bruno, où l'abstention pourrait battre des records dimanche et flirter avec les 30%, les tracts de propagande électorale ne sont pas tous arrivés dans les boîtes aux lettres. Hier, la Poste en avait distribué la moitié. Tous les plis seront acheminés à temps, assure le ministère de l'Intérieur. Et quant aux affiches, certaines manquent à l'appel. Dans plusieurs communes rurales du Limousin, les panneaux électoraux sont toujours désespérément vides, comme à Davignac, un village de 180 votants en Corrèze. Michaël Chailloux de France Bleu Limousin.
Le maire Patrice Barbe l'a constaté lui-même.
Je me suis trouvé à passer à la salle polyvalente, le lieu du bureau de vote, où il y a 12 panneaux, et je me suis aperçu qu'il n'y avait aucune affiche.
Que personne ne soit passé collé d'affiches à Davignac, le maire a du mal à l'expliquer.
Je sais pas, peut-être qu'on nous considère comme un peu des ruraux, donc marginaux.
Mais pour lui, c'est un vrai manquement à la démocratie.
Surtout qu'on est dans une population rurale avec des personnes âgées. Il y a beaucoup de gens chez nous qui n'ont pas Internet. Je trouve ça tout à fait déplaisant.
Idem à Perlevade, où la mairie s'est fondu d'un message sur sa page Facebook expliquant que le prestataire qui assure le collage des affiches a oublié entre guillemets de passer dans la commune, mais rappelant que les élections ont bien lieu ce dimanche. Malgré tout, Bernard Reynal relativise le poids de l'affiche dans la décision du vote. Il est le responsable départemental de la campagne de Jean Lassalle.
Il y a une époque, avoir des affiches sur le seuil des mairies, c'était le seul moyen de connaître le visage de nos candidats. Je pense que la télévision a remplacé largement la connaissance des candidats.
En tout cas, à Davignac, les panneaux de la salle polyvalente vont être scrutés.
Peut-être demain matin, on aura la surprise de voir des affiches un peu partout.
Sinon, le maire pourra faire une observation dans son compte rendu après le vote pour y indiquer qu'il n'y avait pas d'affiches sur les panneaux.
Michaël Chailloux de France Bleu, Limousin. Et pour ceux qui n'ont pas la télévision, il reste encore 2 jours de campagne pour afficher les noms des candidats sur ces fameux panneaux. Pour les procurations, il est encore temps de faire la demande, notamment en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr. Autre grande préoccupation des Français, l'environnement, plutôt absent de la campagne. Alors dans la foulée du dernier rapport du GIEC, Yannick Jadot est à Nantes ce soir pour un meeting du climat. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Et avant son dernier meeting, le candidat écologiste sera cet après-midi près de Saint-Nazaire pour alerter sur la montée des eaux liées au réchauffement climatique.
Oui, Saint-Brévin-les-Pins, c'est l'estuaire de la Loire avec une ligne de côte qui recule, explique l'équipe de Yannick Jadot, et un grand centre médico-social qui, face à la montée des eaux, est contraint de déménager. Un cadre idéal pour finir la campagne. Nous devons relocaliser une partie de l'urbanisme, explique Marine Tondelier, la porte-parole de Yannick Jadot. Il faut, dit-elle, abandonner une partie des territoires. Nous avons le temps de nous y préparer. Le rapport du GIEC, explique un proche du candidat écologiste, nous donne des arguments supplémentaires et met en avant l'urgence sociale. Ce sont les plus riches qui émettent massivement des gaz à effet de serre. Le discours reste constant. Plus d'énergie verte, c'est plus d'emplois. Moins de risques à dépendre du gaz russe ou du pétrole. À quelques jours du premier tour, les Verts misent sur le rapport des experts du climat pour relancer une dynamique autour de Yannick Jadot en s'appuyant sur les fondamentaux et les militants les plus fidèles. À Saint-Nazaire, à Nantes, le candidat écologiste sera aux côtés de Delphine Bateau et en terrain connu. C'est le secteur dans lequel il a été élu eurodéputé et dans lequel il a participé à la bataille de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Demain, Yannick Jadot parlera des solutions qu'on peut imaginer dans les grandes métropoles pour lutter contre le réchauffement climatique. L'idée, c'est vraiment de poursuivre sur ce qui fait la différence, la singularité des écologistes jusqu'à la fin de la semaine.
Avec en effet, Antoine, un petit bonus samedi pour Yannick Jadot.
Une fenêtre de visibilité supplémentaire, oui, alors que la campagne s'arrête officiellement vendredi soir. Il va participer samedi à la grande marche pour le climat, pas en tant que candidat, il ne pourra pas prendre la parole, mais c'est tout de même l'occasion pour Yannick Jadot et son équipe de rappeler les engagements des écologistes. Un peu de publicité gratuite à la veille du premier tour. Il faut, explique Marine Tondelier, porte-parole, faire passer le message. Si votre préoccupation c'est le réchauffement, c'est le climat, alors le vote écologiste est la seule manière d'obtenir des avancées, y compris, explique un élu d'Europe Écologie Les Verts, dans la perspective des législatives. La gauche divisée n'a aucune chance. Il faudra des alliances, un pacte de non-agression. Et pour peser sur le scrutin, pour peser dans le débat, le score de Yannick Jadot sera déterminant.
Merci Antoine Gignot. Et c'est parti pour la déclaration de vos revenus de 2021. Le site des impôts est ouvert. Vous avez jusqu'à fin mai ou début juin, selon votre département. Et jusqu'au 19 mai, si vous faites une déclaration papier. Et lui aussi, il va devoir faire sa déclaration, puisqu'à contrario de beaucoup de footballeurs expatriés, Karim Benzema paye ses impôts en France. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est à la une de l'équipe ce matin. Triplé d'or, titre ce matin le quotidien sportif, après les trois buts marqués par l'attaquant du Real Madrid hier soir face à Chelsea. C'était en quart de finale aller de la Ligue des Champions. À 34 ans, longtemps mal aimé, le footballeur français déclenche aujourd'hui une véritable Benzemania, Nicolas Perronnet.
Oui, dans toute l'Europe, hein, la presse sportive unanime, c'est vrai, il faut dire que l'attaquant français est un récidiviste. Hein, trois semaines après un triplé déjà face au PSG en Ligue des Champions, on a un peu le sentiment qu'il gagne les matchs à lui tout seul en ce moment. La même une, Big Ben, choisie par deux journaux, le Sun en Angleterre et Marca en Espagne, référence évidemment à la cloche de la tour Elisabeth de Londres, l'Angleterre, comme sonnée par Big Benzema. Et la planète foot s'envoie devant les chiffres, quatrième meilleur buteur de l'histoire de la compétition, désormais à trois buts seulement du podium. Karim Benzema est aussi entré dans les livres d'histoire hier soir en devenant le premier Français à marquer 11 buts dans une même Ligue des Champions. Le précédent record, les 10 buts de Just Fontaine, dataient quand même de 63 ans. Longtemps mal aimé en raison de son histoire compliquée avec Didier Deschamps et l'équipe de France, longtemps dans l'ombre de Cristiano Ronaldo en club au Real Madrid, Karim Benzema semble aujourd'hui libéré. À 34 ans, jamais il n'a semblé aussi fort et il ressemble, Corinne, de plus en plus à un favori pour le prochain Ballon d'Or.
Et c'est le top pronostic signé Nicolas Perronnet. Match retour Madrid-Chelsea, ce sera le 13 avril et vous serez devant le poste, bien sûr, Bruno. Bruno Duvic, vous êtes parti. Eh bien, on va partir sur la publicité.
L'original ou la copie? Organon Originals, 22 médicaments originaux pour pas un centime de plus.
Rendez-vous sur organonoriginals.fr ou chez votre médecin.
Médicaments Organon Originals, l'idéal.
Le droit d'aller à l'école, ça vous paraît normal? Et le droit d'avoir un travail alors? Chez Actual, acteur majeur du travail en France, nous travaillons tous les jours pour vous garantir ce droit. Travail intérimaire, recrutement, accompagnement vers l'emploi, formation. Avec Actual, construisons ensemble votre travail.
On a retrouvé Bruno Duvic.
Absolument, le temps de ce jour. Merci Corinne Audouin pour le journal Le Temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Élodie Calac, c'est un temps agité.
Oui, avec de bonnes pluies au menu. Alors elles épargnent quand même les régions allant du sud de l'Aquitaine à la Méditerranée. Sur le nord des Alpes, beaucoup de neige attendue dès 1800 mètres sur les deux prochains jours. La Savoie est en vigilance orange avalanche. Près de la Manche jusqu'à l'Île-de-France et aux Ardennes, ça s'arrange. Retour d'éclaircies. Le vent souffle quasiment partout, jusqu'à 60 à 90 km à l'heure. 110 sur la Corse. Il se renforcera nettement ce soir. Les températures entre 12 et 15 degrés cet après-midi, jusqu'à 18 à 22 du sud de l'Aquitaine au sud-est. Et puis demain, temps très agité en lien avec la tempête Diego. Des pluies au nord, un petit peu de neige temporaire au nord de la Seine et surtout beaucoup de vent partout, jusqu'à 80 à 100 km à l'heure du centre-ouest au nord-est et 100 à 120 sur le littoral de la Vendée aux Charentes.
Élodie Calac, Météo France, le 13-14 au Super-U de Mamers pour parler de pouvoir d'achat. C'est tout de suite.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Et après la pompe, les rayons alimentaires, nous sommes toujours avec Patrice Guérin, copropriétaire de ce Super-U de Mamers avec son épouse Fanny. Nous sommes dans la Sarthe entre Le Mans et Alençon. Et là, Patrice Guérin, nous sommes dans un rayon bien particulier où il manque des produits. Alors honnêtement, quand je suis passé ce matin, il en manquait davantage. On est dans quel rayon là ?
On est dans le rayon des huiles,
ouais.
Principalement huile de tournesol.
Ouais.
Et c'est un rayon qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à réapprovisionner.
Ouais, je vois, il y a un petit panneau. Tout ne se passe pas comme prévu. La situation sanitaire que nous traversons ensemble impacte nos entreprises partenaires. Ça veut dire que concrètement, petit un, les gens ont fait des stocks?
Alors là, ce qu'on voit, les trous, c'est du stock. Hein. C'est, je prends pas une bouteille, j'en prends quatre. Hein. On ne sait jamais. J'entends parler à la télé qu'il y a la guerre en Ukraine, que le tournesol vient d'Ukraine, donc je prends quatre bouteilles.
70% du tournesol est disparu du marché depuis le début de la guerre.
C'est ça.
Voilà. Donc petit 1, il y a du stock et petit 2, vous avez du mal à vous faire livrer.
Et puis il y a effectivement des difficultés de s'approvisionner puisque l'huile de tournesol est principalement fabriquée en Ukraine et en ce moment il n'y a pas trop de camions qui arrivent jusqu'à chez nous avec de l'huile de tournesol dedans. Donc voilà. Effectivement c'est une vraie difficulté.
Donc des difficultés d'approvisionnement et des prix qui grimpent. On se balade dans le rayon d'à côté. Patrice, okay. Guérin, la tonne de blé a pris 75% sur les marchés internationaux en un an et là on arrive au rayon pâtes alimentaires, ça grimpe ou ça grimpe pas ?
C'est un rayon où on grimpe énormément. On va prendre l'exemple des coquillettes d'une grande marque nationale. Sur un kilo de pâtes coquillettes, on est à une augmentation depuis le début de l'année de presque 30%.
30%. Alors évidemment, en valeur faciale, comme on dit, ça se voit pas énormément parce que les pâtes sont pas un produit très cher, mais 30%, c'est vraiment beaucoup.
Voilà, on a une hausse sur ces produits-là qui sont quand même en plus des produits de première nécessité, oui. Qui est lié aussi à la hausse du carburant, qui est aussi lié à la hausse du carton, du prix du carton, qui, oui, a pris 70% en un an.
Oui. Pour vous, auprès de vos fournisseurs, l'inflation, vous la ressentez comment ? À quel rayon, sur quel produit ?
Les deux rayons qu'on vient de citer, oui, sont les rayons principaux sur lesquels on le ressent fortement,
oui,
pour le moment.
Ouais.
Et on malheureusement on craint avec le conflit ukrainien que d'autres rayons soient impactés. On prendrait l'exemple par exemple du rayon viande,
ouais,
où on sait que nos éleveurs vont avoir des difficultés demain à s'approvisionner à des prix corrects,
ouais,
et donc ça augmentera évidemment le prix de la viande.
On ira tout à l'heure au rayon viande parce que la particularité de ce magasin, c'est que pour les grandes marques, vous vous approvisionnez auprès de la centrale d'achat de Système U, mais vous avez aussi pour plein de choses vos fournisseurs locaux. Est-ce que ce soit au niveau de la centrale ou au niveau des fournisseurs, vous allez renégocier les prix? On sait que les négociations annuelles se sont achevées il y a quelques semaines. Vous allez renégocier les prix?
Alors, c'est effectivement une question d'actualité. Pour le moment, moi, à mon niveau, dans mon magasin, j'ai pas forcément la réponse. Je pense que ça va se jouer entre les centrales d'achat, Leclerc, Intermarché, Auchan, U, qui vont probablement rediscuter avec les industriels.
Oui.
Mais vu le contexte, il apparaît assez logique que ça soit le cas.
Parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'inflation qu'on a constatée là dans ces deux rayons, c'est l'inflation qui est la conséquence essentiellement du Covid et de tout ce que ça a perturbé dans la chaîne d'approvisionnement, mais va arriver d'autres conséquences, l'inflation liée à l'Ukraine, l'inflation de ces dernières semaines.
C'est exactement ça. Et puis aujourd'hui, on a aussi une inflation liée à la spéculation mondiale sur certaines denrées, l'huile de tournesol par exemple,
ouais, hein,
mais aussi les pâtes et le carton et l'aluminium
ouais,
aussi, qui ont augmenté. Donc là, il y a ce contexte de spéculation qu'il faut prendre aussi en compte.
On va tranquillement retourner vers le studio qui est installé près de la cafétéria. Le comportement de vos clients a changé, Patrice Guérin, ces dernières semaines ?
Alors, on ressent beaucoup de listes effectué par les clients.
Ah oui, on fait la liste pour ne pas aller au-delà.
Et on essaye d'éviter d'aller au-delà, de, ouais, pas céder aux tentations du magasin. Et on va effectivement aussi faire attention aux promotions. On voit beaucoup de clients qui se promènent avec les tracts de promo dans les mains pour pouvoir faire de bonnes affaires.
Ah, le tract, tiens, j'en ai posé un sur la table du studio qu'on a installé près de la cafette. Ça marche, ces tracts-là qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres?
Alors c'est l'un des vecteurs principaux de communication du magasin. Et effectivement, les clients sont très très alertes sur ces bons plans et la boîte aux lettres est un formidable outil pour pouvoir communiquer sur notre attractivité.
Là, pour s'installer dans le studio, on est passé près du rayon ameublement de jardin, pardon, je trouvais pas les mots. Typiquement, c'est le genre de rayon où les ventes marchent moins bien en ce moment, c'est du superflu, si j'ose dire. Alors c'est vrai que le temps aujourd'hui à Mamers n'incite pas à aller dans le jardin.
Bon, alors là déjà, vous l'avez vu quand on était à la station,
oui.
Pour l'instant on va attendre pour sortir les salons de jardin. Nous on les a déjà sortis pour les vendre. Mais là encore, ce n'est pas une priorité pour nos clients aujourd'hui, que ce soit le textile ou, on appelle nous, les rayons bazardiers. Ce n'est pas encore le moment d'aller sur ces produits-là.
Serge Guérin, on se retrouve, Patrice Guérin, pardon, on se retrouve tout à l'heure. On ira au rayon boucherie et puis on verra où est-ce qu'il y a des promos.
Ok, ça marche.
Très bien. Donc, dans notre studio installé ici à la Cafette, j'accueille nos trois autres invités. Bonjour Élise Piogé.
Oui, bonjour.
Vous êtes la comptable du Super U. Vous vous êtes installée. Alors, est-ce que voilà, on a changé de micro. Je suis passé du micro à chef au micro fixe. Comptable du Super U, vous êtes installée à côté du patron. Bonjour Virginie Andry.
Bonjour.
Infirmière libérale, adjointe au maire, sans étiquette, je le précise, en ces temps où la parole est contrôlée avant la présidentielle, adjointe au maire sans étiquette de Mamers. Et bonjour à Carole Monguillon, salariée Numériplan, elle devait nous rejoindre. Vous êtes avec nous et vous êtes en télétravail, on parlera de ça en détail. Virginie Andry, différence en ce début d'année par rapport à l'année dernière du point de vue du carburant?
Oui, effectivement, très compliqué en ce moment à cause de l'augmentation du carburant. J'arrive aujourd'hui à faire le plein une fois par semaine,
oui.
À 150 euros à peu près par semaine.
Alors que les 150 euros, il y a quelque temps, c'était ce que ça vous coûtait quasiment au mois.
Voilà, à peu près.
Ouais. Infirmière libérale, ça veut dire combien de tournées par jour ?
On travaille en équipe, donc on a 3 tournées par jour. Une qui travaille toute la journée et qui est essentiellement sur Mamers.
Vous êtes 4, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. La deuxième, elle tourne autour de la ville, donc on fait jusqu'à 20 km autour de Mamers. Donc du coup, suite à l'augmentation de l'essence, on est en train de réfléchir de diminuer notre kilométrage autour de Mamers.
Et réorganiser les tournées, c'est-à-dire des endroits où vous pouviez aller 2 fois par jour, n'y aller qu'une seule fois, ça par exemple, vous avez déjà mis ça en place ?
Oui, effectivement.
Élise Piogé, vous avez 2 enfants qui sont en garde alternée, vous habitez à Vivoin qui est à 25 km d'ici, ça fait 50 km tous les jours, rien que pour le travail, rien que pour venir ici au supermarché, plus les trajets pour les enfants. Là aussi, l'impact pour vous de la hausse du carburant, quelle est-elle ?
Eh bien, forcément, on est obligé toujours d'en mettre autant dans la voiture.
Oui.
Donc, je suis toujours à 2,5 pleins, 3 pleins par mois.
Oui.
Et donc, quand c'était au-dessus de 2 euros, ça faisait plus de 30 euros de différence par rapport à début d'année, même fin d'année, où on était dans des prix encore corrects.
Oui.
Donc, c'est vrai qu'il y a certains abonnements qui ont été supprimés pour...
On rogne sur les loisirs. Quand vous dites abonnement, par exemple...
Les abonnements en musique, vidéo...
C'est
voilà.
Ça, on rogne sur les loisirs.
Oui, on rogne un peu sur les loisirs. Et puis, on fait attention aussi à d'autres trajets qu'on aurait fait avant et que maintenant voilà on réfléchit un peu plus avant de prendre la voiture.
Est-ce que je peux vous demander combien vous gagnez par mois l'une et l'autre ou à peu près une fourchette et est-ce qu'il y a un moment dans le mois où ça devient très compliqué où justement on se dit ben tiens l'abonnement je vais le laisser tomber mais je vais laisser tomber autre chose voilà la question. Virginie Andry. Si ça vous gêne, vous ne répondez pas.
Non, ouais. Je ne souhaite pas répondre à cette question.
Bon, Carole Monguillon, vous êtes dessinatrice,
oui,
salariée d'une entreprise qui s'appelle Numériplan. Vous dessinez des plans de maison. Vous habitez Le Mans. L'entreprise est à Mamers, donc là aussi, ça fait des allers-retours. Et vous êtes en télétravail 4 jours sur 5. C'est un choix justement lié au coût de l'essence ou pas ?
Non, c'était un choix dès le départ par rapport à la distance justement, parce que ça me... Ça mène à faire 100 km par jour,
oui.
Donc plus de 20 000 km à l'année.
Oui.
Voilà, ça représente un coût. un coût d'essence, un coût d'entretien de voiture. Ouais. Donc voilà, c'était un souhait. Donc avant Covid, avant Ukraine, voilà. Mais bon, c'était moins important. Je faisais une journée sur deux de télétravail. Et depuis tous ces événements, je ne viens qu'une fois par semaine à ma mère.
Donc ça tombe bien, si j'ose dire, d'être en télétravail en ce moment.
Bien sûr, ouais. Oui, parce que le budget essence pèse énormément sur le salaire, quoi. Oui, tout à fait.
Et inquiétude de votre côté sur la facture chauffage et électricité.
Oui, que j'ai vu également monter fortement. Voilà, j'y gagnais jusqu'à maintenant, mais là, je.
Alors, cela dit, les prix sont largement bloqués pour l'instant. Vous êtes mensualisé.
Oui.
Ce que vous redoutez, c'est le coup de bambou quand ça va se débloquer,
oui,
c'est ça?
Voilà, on ne sait pas où, jusqu'où ça peut aller, donc.
Est-ce que vous aussi, c'est les loisirs qui prennent?
Bien sûr, ouais. Bien sûr. On fait attention, voilà, il y a des priorités, hein, et puis, des loisirs qui, eux, passent en second plan, quoi. Ouais.
Virginie, est-ce que vos patients vous parlent de cette question du pouvoir d'achat quand vous intervenez chez eux, vous qui êtes infirmière libérale?
Oui, surtout nos retraités qui s'inquiètent beaucoup pour leur pouvoir d'achat.
Oui.
Ils se demandent quand est-ce que ça va s'arrêter, cette augmentation, parce qu'ils vont plus pouvoir suivre avec leur retraite.
Vous êtes donc aussi adjointe au maire de Mamers. Au niveau de la municipalité, quelles décisions ont été prises pour amortir la hausse de l'alimentaire, la hausse de l'énergie, la hausse des carburants?
Concernant la population, on a décidé jeudi dernier au conseil municipal de voter pour ne pas augmenter la taxe foncière. Ce qui est une bonne chose, donc ça fait 2 ans qu'elle n'a pas été augmentée. En 2014, on l'avait diminuée à 2-3%. En 2019, on l'a encore diminuée de 2%. La seule chose, que la taxe foncière est quand même augmentée, mais pas au niveau de la commune,
oui.
Au niveau de l'État, à cause de l'augmentation de l'indexation,
oui.
De l'inflation, et qui sera augmentée de 3,4%.
Donc la part de l'État augmente, pas celle, oui. De la commune. Est-ce que ça veut dire qu'en contrepartie, la commune a renoncé à certains projets?
Alors, Monsieur le maire nous a demandé, dans tous les services, d'essayer de faire des économies au maximum. On a diminué la température dans certains bâtiments aussi.
Oui, et des projets, je dirais, plus structurants. Vous êtes en charge de la sécurité, je crois.
Oui.
Est-ce qu'il y aura, par exemple, des projets de caméras de vidéosurveillance qui sont laissés de côté, des choses comme ça, pour faire des économies et éviter d'augmenter la taxe foncière?
Oui, exactement. J'avais le projet cette année de faire augmenter nos caméras, puisqu'on en a 35 sur la ville de Mamers. Malheureusement, ce projet, peut-être, il aboutira l'année prochaine.
Oui. Alors, le temps de repartir dans le magasin pour une nouvelle déambulation avec Patrice Guérin, le copropriétaire ici du Super U de Mamers. On va se diriger avec lui vers le rayon boucherie. Écoutons au micro de Faustine Calmel, un éleveur dont la viande est distribuée chez Système U. Il s'appelle Franck Delorme. Il est installé à Saint-Longis. C'est la 4e génération dans la ferme familiale. 46 ans, installé depuis 2005. Il a 170 bovins labellisés bœuf fermier du Maine. Et les temps ne sont pas les plus faciles.
La tonne d'aliments, elle a pris pratiquement 60 euros là, en espace d'un mois ou deux. Hein. Et je pense que ce n'est pas encore fini. On nous a dit qu'il fallait attendre encore des hausses.
Ça, c'est pour les aliments, pour le fioul?
Pour le fioul, aujourd'hui, moi, j'en ai fait venir il n'y a pas longtemps. On arrive à 1,75 en fioul. Avant, on payait le fioul, j'ai vu ici, 75 centimes. C'est pour ça que là, ça va commencer à tirer dur. Les trésoreries vont prendre très cher.
Vous envisagez des adaptations, des solutions par rapport à ça?
On peut diminuer en bovin. Déjà, ça permet d'avoir moins de charges au niveau de ça, de moins les chercher à manger ailleurs. Ça peut être une solution. Mais aujourd'hui, il faut aussi de la viande, parce qu'apparemment, la viande marche mieux. Hein. Les gens veulent manger de la viande. Je pense qu'ils vont chercher plus de la qualité aujourd'hui. Mais jusqu'à quel point aussi?
Combien ils sont prêts à payer?
Voilà, c'est ça le problème. Ça fait 17 ans que je suis installé. J'ai jamais vu une crise comme ça avec le prix du fioul et tout ça. On a eu du fioul cher à une époque. On l'a monté jusqu'à 1 euro. Mais ça n'a pas duré non plus longtemps. Mais là, je pense que là, ça va être une crise qui va être dure à gérer. Et même si la guerre s'arrête en Ukraine, il va falloir 3-4 ans pour arriver à retrouver des prix stables. Hein. Je pense. Hein. Après, à voir. Mais... Comment on voit la suite? Ben, la suite, pour l'instant, on a du mal à se projeter. Aujourd'hui, on vit pratiquement au jour le jour ou au mois, on va dire. C'est pas évident, non.
Et nous sommes, comme promis, au rayon boucherie à présent avec Patrice Guérin, le propriétaire de ce Super U, et Martin, le boucher, qui est à côté de nous, qui est en train de s'occuper d'une cliente. Donc on va le laisser travailler, on l'interrogera après cela. Une pratique qui se diffuse, avant de parler avec Martin, voilà, qui est en train de se libérer, Patrice Guérin, c'est le chèque différé. Il y a de plus en plus de clients qui vous demandent à toucher le chèque un peu plus tard.
Hein. Alors c'est quelque chose qu'on a mis en place dans le magasin il y a quelques mois, pour faciliter le paiement de nos clients, et tous les samedis nous décalons l'encaissement des chèques, et on s'aperçoit que les clients sont preneurs de ce type d'opération.
Ouais. Et il y a d'autres opérations de cette nature-là pour répondre à la menace pouvoir d'achat?
Bien sûr, on effectue aussi des opérations ponctuelles sur de la gratuité. Nous effectuons
de la gratuité.
La gratuité, c'est-à-dire que pour deux produits achetés, un troisième offert. Okay. La semaine dernière, les gars ont fait des pyramides de kebab et on offrait le pain à kebab qui allait avec.
D'accord.
Donc ça, les clients sont friands puisque évidemment ils y gagnent à chaque fois.
On peut vous embêter un peu, Martin ? On vous avait promis qu'on passerait. Alors, je laisse Nicolas Mathias, qui a le second micro, s'approcher de vous. On est devant le rayon boucherie. Qu'est-ce qui augmente chez vous?
L'augmentation est générale, hein, que ce soit au rayon boucherie ou partout dans le magasin. Je pense, enfin, même partout, dans toutes les enseignes, dans tous les... L'augmentation est générale. Après, le veau surtout, et puis quelques pièces de bœuf. Mais ça reste une généralité. Après, on fait avec.
Ouais. Et vous avez des chiffres, le veau, le bœuf, ça augmente de combien? Ça, vous avez une idée à peu près?
C'est jamais régulier. Après, oui, on a des chiffres. On a la bavette d'Aloyau qui a pris 7 euros à peu près. Mais bon, comme le disait Monsieur Guérin à l'instant, on essaye de faire des opérations pour pouvoir limiter. Et puis surtout pour nos clients. Hein. Aujourd'hui, les consommateurs sont répercutés. Donc,
Les clients râlent ou pas?
Râlent, non, parce que je pense qu'ils comprennent que de toute façon, on a malheureusement pas le choix. Ils nous le disent que bah ouais, la vie augmente, que bah ils sont désolés même de pas pouvoir se faire plaisir plus que ce qu'ils le font, mais ils nous remercient de faire les opérations qu'on fait, les 3+1 sur les steaks hachés, les milanaises, le pain à kebab la semaine dernière. Ouais. On est remercié quand même sur ces opérations là.
Patrice Guérin, la viande qui est ici, c'est de la viande qui est fabriqué, si j'ose dire, localement, qui est issu d'élevages locaux?
Alors, elle est travaillée par mes bouchers qui sont des passionnés et des vrais professionnels. Hein, c'est eux qui découpent la bête. En revanche, avant, il faut trouver une bête. Et la bête, elle est 100% sartoise, pour le bœuf en tout cas, à chaque fois. Et c'est là où c'est un juste équilibre, en fait, entre je veux pas vendre cher à mes clients, mais il faut que j'achète au bon prix aussi à mon agriculteur qui est peut-être dans le champ d'à côté. On a entendu tout à l'heure Monsieur Delorme, c'est un client en fait.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il pousse le caddie pour faire ses courses, pour nourrir sa famille.
Ouais.
Donc il faut que moi aussi je puisse garantir que lui il ait un revenu décent. Et à côté, il faut que j'arrive à trouver un bon compromis, que mes clients aient le bon prix sur le produit aussi.
Et vous nous disiez que, par exemple, les bêtes qui ensuite donnent la viande ici, vous en avez acheté une vous-même. Vous êtes allé à un marché il y a quelques jours pour négocier la bête, là vraiment au sens propre.
On a la chance d'avoir un concours extraordinaire à Mamers qui a lieu lors de la fête des 3 jours de Mamers. C'est un concours exceptionnel. Et là, nos éleveurs montrent tout le savoir-faire français avec des bêtes magnifiques. Et on a la chance d'y aller avec mes bouchers, hein, c'est eux qui vont choisir. Ils n'ont pas les couteaux le jour même, hein, mais ils vont choisir les bêtes. Et effectivement, on a pris des bêtes championnes. On en aura une d'ailleurs à Pâques, prête à déguster.
Il y a beaucoup de corners, pour employer l'expression, consacrés avec des promos, des bons prix. En ce moment, quelle est la politique? Il y a un endroit où vous rassemblez les meilleurs prix, ou bien vous le faites rayon par rayon? Comment ça marche?
Bon, déjà c'est bien, ça vous a pas échappé, vous avez vu les corners. Donc effectivement, il y a des corners de promotion, donc ça c'est le tract qui est reçu dans la boîte aux lettres.
Ouais.
Et puis à côté de ça, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, on met en avant les premiers prix. Et là on se dit que le client va arbitrer, il va se dire tiens, je vais me prendre un bon morceau de viande, je sais que je le paye un peu plus cher, mais à côté de ça, je vais peut-être prendre un produit premier prix pour venir compenser sur mon panier. Et on s'aperçoit que depuis que l'on a mis ça en avance, bah, effectivement les ventes ont augmenté.
Question annexe, et puis on va retourner à notre studio et on va entendre un nouveau reportage de Faustine Calmel. Les produits Buitoni et autres produits qui ont été mis en cause dans des maladies ces derniers temps, ils ont été retirés de vos rayons. Ça va très vite dans ces cas-là.
Là, c'est fulgurant, ouais. Puisque nous, on a un blocage informatique qui se fait immédiatement. Système U, bon, comme toutes les autres enseignes, je présume, j'espère, sont très, très réactifs sur le retrait de ces produits. Malheureusement, malheureusement, quand c'est des chocolats de Pâques, c'est plus compliqué pour tout récupérer parce que c'est des quantités très importantes.
Allez, Faustine Calmel, on vous retrouve. Je vous laisse présenter votre reportage, ce couple qui fait des efforts de rénovation dans sa maison pour le chauffage, pour les huisseries et tout, et tout.
Oui, c'est un couple qui habite pas très loin d'ici, à une vingtaine de minutes en voiture. Et c'est Éric Leduc, le mari charpentier, qui nous fait la visite.
Donc, pompe à chaleur, les menuiseries, donc aussi en isolation performante aussi, hein. Porte d'entrée, le chauffe-eau thermodynamique, et on change la VMC aussi pour avoir une bonne répartition aussi de la chaleur. Hein.
Le coût des travaux, c'est 40 000 euros. Ils sont financés pour un tiers par une aide de l'Agence nationale de l'habitat et aussi par un prêt à taux zéro. Avec tout ça, le couple espère faire baisser presque de moitié sa facture énergétique.
On est à 2300 euros environ à l'année. En espérant avoir une consommation à peu près à 1400, 1500 euros à l'année, donc ça nous ferait une économie de 1000 euros à peu près par an.
1000 euros qui ne serviront pas aux vacances, cela fait 4 ans que les Leduc ne sont pas partis. C'est juste un peu d'argent pour souffler au moment de faire les courses du quotidien.
C'est très 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 cher maintenant, donc ça va nous donner un peu plus de pouvoir d'achat, quoi.
Quand je vais en course, pas de bœuf, hein, parce que c'est beaucoup plus cher déjà. Plus je retarde, mieux c'est, ça me soucie d'y aller en course. Mais je vois comme l'autre jour, je suis allée à Lidl, j'en avais pour 135 euros. Ensuite, plus je trouve pas Lidl, je complète avec Inter, j'en avais pour 138 euros. Et après, j'ai rempli mon réservoir, j'en avais pour 48 euros. En 2 heures, on en met déjà pas mal.
À 320 euros, un gros trou dans le budget de ce couple, tous deux en invalidité et au tout petit revenu.
Et on va laisser Patrice Guérin prendre votre place. Merci beaucoup Faustine Calmel pour tous ces reportages et ces éclairages. Nous sommes toujours avec Élise Piauger, comptable ici à ce Super U de Mamers, Virginie Andry, infirmière libérale adjointe au maire de Mamers, et Carole Monguillon, salariée Numériplan, qui est en télétravail 4 jours sur 5. Question simple, est-ce que le pouvoir d'achat les uns les autres aura un poids sur votre vote?
Bien sûr.
Carole Mauguillon, bien sûr.
Oui, bien sûr. Oui. Je vais faire attention, effectivement, à ce sujet.
Vous regardez les propositions et vous voterez en fonction de ce sujet. J'imagine qu'il y en a d'autres
ça
aussi.
Ça en fait partie, oui. Ça en fait partie.
Ouais. Virginie?
Oui, moi aussi, effectivement. Je vais faire attention à ça.
À quel sujet vous serez sensible, les hausses de salaire, le blocage des prix? Alors, si on résume les propositions, un, bloquer les prix. Est-ce que, et je demanderai au patron aussi, Patrice Guérin, bloquer les prix. Est-ce que vous vous dites maintenant, là, on est à un stade où, il faut prendre des décisions radicales et bloquer les prix, ça me semble pas mal.
Oui, c'est bien, mais qu'est-ce que ça va donner par la suite? Oui. L'augmentation, elle va encore être supérieure, donc on va jamais s'en sortir.
Ça passe donc plutôt par du salaire qu'autre chose. Le sujet numéro un de votre point de vue, c'est d'augmenter les salaires.
Oui, et aussi nos indemnités kilométriques, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas été augmenté. Nous sommes à 2,50 € en indemnité kilométrique, alors que les orthophonistes, les kinés, ils sont à 4 € et les médecins, ils sont à 10 €. Je comprends pas cette différence.
Donc là, on a un exemple concret. Élise Piauger, même question. Est-ce que la question du pouvoir d'achat aura une influence sur votre vote dimanche?
Alors oui, forcément, mais il y a aussi il y a aussi les autres sujets sur les successions, sur l'énergie, sur
voilà, c'est pas forcément pour vous le premier sujet pour se prononcer.
Non, ce sera pas le premier.
Vous avez versé la prime Macron à vos, il y a 100 salariés hein, au supermarché, Patrice Guérin. Vous avez versé la prime Macron?
Nous l'avions versé au moment du Covid, ouais. Lorsque le processus avait été instauré. Et ça avait été avec plaisir qu'on l'avait versé à nos collaborateurs qui étaient présents. À l'époque, on se rappelle, on disait la première ligne. Ils étaient en ligne de front, ouais. Les seuls à bosser. Donc on était ravis de pouvoir leur verser cette prime.
Et là, ils proposent désormais de la tripler. Est-ce que vous l'avez versé donc l'année dernière, du coup? Est-ce que vous allez à nouveau la verser cette année? Est-ce que vous êtes prêt à aller à des sommes plus élevées?
Alors, c'est des pistes de réflexion. Nous,
c'est 1000 euros pour une entreprise comme la vôtre, et donc tripler 3000. Voilà, 3000.
Nous, la piste de réflexion que l'on a, c'est de faire attention à la rémunération tout au long de l'année et pas sur des one shot. On a déjà des processus qui sont les participations légales au bénéfice de l'entreprise que nous versons, et on privilégie avec mon épouse d'une part un fixe qui soit peut-être un peu au-dessus de la grille conventionnelle, ce qui est le cas dans notre magasin pour beaucoup de salariés, et d'autre part les primes mensuelles que l'on verse sur des objectifs réussis. Et ça, ça attire les collaborateurs d'avoir une prime en fonction des résultats de leur équipe.
Un peu au-dessus de la grille, dites-vous, sur la centaine de salariés, combien sont au SMIC, combien sont au-delà et dans quelle mesure sont-ils au-delà ?
Alors, on a employés agents de maîtrise dans le magasin et sur les employés, on va dire qu'on a à peu près 60% des personnes qui sont au SMIC, virgule, sur 13 mois, virgule, avec des primes, plus la participation légale. Donc il y a plusieurs choses. Vraiment au SMIC, on n'en a pas, parce qu'il y a 13 mois, parce qu'il y a la participation aux bénéfices qui est quasi un 14e mois, et parce qu'il y a les primes mensuelles. Je vais vous prendre l'exemple du Drive, qui explose énormément. L'équipe Drive, ça fait un an qu'ils ont 100% de primes tous les mois. Bon, parce qu'ils performent, mais c'est parce qu'en ce moment, le Drive, ça fonctionne bien.
Donc dans ce contexte, l'idée d'augmenter les salaires, ça n'est pas une idée que vous retenez, étant donné tout ce que vous...
Augmenter les salaires, de toute façon, ils augmentent déjà systématiquement chaque année. Chaque année, on est obligé aussi de vérifier qu'on est toujours en adéquation avec le marché. Je parle pour les métiers, les bouchers, les boulangers, les pâtissiers. Il faut toujours être dans le challenge de nos concurrents ou de l'artisanat pour garder nos boulangers qui ont un vrai savoir-faire et nos bouchers qui ont un vrai savoir-faire. Donc ça, c'est on y prête attention. Évidemment. Et nous, là où on doit faire attention, c'est d'une part aux rémunérations, d'autre part aux envolées des prix de l'énergie, parce que pareil, l'énergie dans le magasin, c'est énorme. Nous, on est en contrat avec Gazprom, donc le gaz, je vous fais pas de dessin, c'est juste exponentiel. Donc on fait attention à tous ces sujets-là, mais on sait qu'aujourd'hui, pour garder des collaborateurs, il faut être au bon salaire. Il n'y a pas que ça qui compte, mais ça fait partie des points importants, évidemment. Là, ce qui nous préoccupe en tant que patron, c'est les frais kilométriques. C'est les frais d'essence que nos salariés ont pour venir travailler comme Élise à côté de moi.
Et
ça nous préoccupe.
Et vous allez y participer aux frais kilométriques d'Élise ?
Eh bien, on est en train d'y réfléchir, sauf que c'est parfois un peu compliqué, parce que lorsqu'on veut mettre quelque chose, on s'aperçoit que les cadres législatifs ne nous permettent pas, c'est-à-dire que ça peut se transformer en avantage en nature, ça veut dire que ça s'est interdit, etc. Donc c'est compliqué de trouver des fenêtres qui nous permettent d'étudier ce sujet-là. Mais c'est un sujet que l'on regarde attentivement avec mon épouse, parce que vraiment ça nous préoccupe, parce que nos salariés nous disent « purée, ce mois-ci j'ai encore tant de carburant ».
Élise Piogé, vous nous disiez tout à l'heure, on a fait sauter l'abonnement Disney+. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants ?
Je leur explique.
Non, mais voilà, il y a un livre qui fait un peu référence, qui s'appelle La France dans les yeux, et qui explique qu'aujourd'hui, ce type d'abonnement, on se définit avec ce type d'abonnement. Et donc, c'est pas facile de dire à son fils ou sa fille, non, Disney+, tu l'auras pas. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur expliquez tout simplement, les prix augmentent?
Oui, voilà, ils sont au courant. Alors, on a évoqué un peu la guerre, mais très, très, très peu, puisqu'ils ont 5 et 8 ans, donc, c'est encore jeune. Mais pour qu'ils comprennent que aussi le carburant a augmenté et c'est devenu une dépense prioritaire dans notre budget et donc je leur ai expliqué et ils ont bien compris et voilà, à côté on a un autre abonnement, on s'organise,
ils sont pas malheureux ces petits.
Ils vont très bien pour autant, mais voilà, il faut aussi qu'ils soient au fait de la réalité, c'est important.
Un tour de table rapide. Je vais pas vous demander les unes et vous, Patrice Guérin, pour qui vous votez. Juste, est-ce que vous allez voter? Et est-ce que vous savez pour qui vous allez voter dimanche? Allez, Patrice Guérin.
Pour vivre heureux, vivons cachés. Alors oui, voter évidemment. Voter, ça c'est un devoir.
Et vous savez
pour qui?
Ouais.
Aujourd'hui
je vous demande
là.
Pas pour qui, mais est-ce que vous savez pour qui?
Non, mais je ne sais pas.
Élise?
Oui, je vais voter et je sais pour qui.
Virginie?
Oui, je vais voter, mais j'hésite encore.
Carole?
Oui, je vais aller voter. Voilà, je suis encore indécise, mais une petite idée, mais voilà.
Bon, on n'a pas les 30% d'abstention autour de la table, cas. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Un grand merci en particulier à vous, Patrice Guérin, de nous avoir accueillis ici au Super U de Mamers. Comme à chaque déplacement du 13-14, nous mettons en lumière une initiative dans la région où nous nous installons. Hier, nous avons fait un stop à Mamers chez Hervé et Marc. Ils vivent dans une grande maison de 300 mètres carrés, façade style rococo, l'intérieur est un musée. Marc est un grand chineur devant l'éternel, ils font chambre d'hôte. Mais depuis 3 semaines, ils accueillent une famille venue d'Ukraine, femme et enfants, 5 en tout. Les hommes de la famille sont restés en Ukraine.
qu'ils ont leur vie, ces Ukrainiens, entre deux villes désormais tristement célèbres, Gostomel, où les combats ont été si violents, et Boutcha, d'où nous sont venues les premières images de ce qui a toutes les apparences de crimes de guerre. Ils sont arrivés, ces femmes et enfants, le 14 mars chez Hervé et Marc. Comment se passe leur intégration? Nous sommes passés faire un tour sur les coups de 18h hier soir.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Natalia, Sonia. Alors, bonjour. Natalia est la grand-mère de Sonia. Vladislava, qui est la fille de Natalia, qui a 16 ans. Et Maxime, 9 ans. Et on devrait voir Yulia, qui est la maman de la petite Sonia, 3 ans et demi. On leur a parlé hier de votre venue. Et en fait, elles ont très envie de parler de leur ville qui est entièrement détruite, où elles ont tout perdu.
Ви, напевно, бачили фотографії в інтернету з Бучі.
Vous avez probablement vu des photos sur internet de Bucha.
Мої діти ходять в школу в Бучу.
Mes enfants vont à l'école à Bucha.
Le mari de Natalia s'occupe, lui, des gens qui ont tout perdu. Donc il essaie de trouver des solutions, de reloger des gens, de leur amener à manger, de l'eau, parce que l'eau manque aussi. Ensuite, Natalia est maman de deux fils aînés qui sont à la guerre, 24 et 26 ans. Voilà, pour l'instant, tous les deux vont bien, téléphonent tous les jours à leur famille.
Ici, en France, qu'est-ce qui est facile et difficile?
On a gardé des amis, Marc et Hervé. Ils nous aident beaucoup.
Nous avons de bons amis, Marc et Hervé. Ils vous aident beaucoup.
Ils ont traversé quelque chose de terrible, parce que la veille d'arrivée, ils dormaient dehors dans la neige. On ne se rend pas compte de ce que peut être un exode, en fait. Quand eux sont arrivés, avec leur fatigue, avec leurs émotions, leur chagrin, mais tout ça, on ne l'avait pas prévu, de se prendre une charge émotionnelle aussi forte. Nos grands-parents nous en parlaient, mais nous, on a grandi sans ce souci de pouvoir un jour se dire qu'on pouvait être en guerre. Mais là, c'est près de chez nous. Ce sont des gens qui sont nos voisins. Moi, j'ai vécu dans ma vie militaire le Kosovo. Ça m'a rappelé des choses pas terribles. Et je trouve qu'ils s'adaptent vraiment très bien. Vraiment. Moi, je suis très surpris. Et tant mieux pour eux. Ça va faciliter les choses de manière extraordinaire, parce qu'ils vont être là plusieurs mois quand même. Voilà, c'est ça qui est important.
Julia et moi allons aussi apprendre le français.
Les enfants, après ça s'est fait très vite, hein. Ils ont déjà des copains, des amis. Dès qu'il y a un téléphone qui traîne, eh ben voilà, on a Google Translate et on y va, on converse. Et puis la dernière qui va faire sa rentrée, c'est Vladislava, donc 16 ans, qui, elle, va intégrer le centre de formation pour adultes d'Alençon jeudi, où elle va continuer sa formation de coiffeuse qu'elle avait commencé en Ukraine.
Et Hervé, une question pour vous. Ça fait 3 semaines. Comment vous le vivez?
Alors, en fait, les départs, c'était de savoir comment on pouvait s'organiser pour les repas, sachant qu'en Ukraine, on n'a pas d'horaire pour manger, on mange quand on a faim. Maintenant, ils ont compris le système tel qu'on le vit chez nous. Donc nous, c'est vrai qu'on cuisine beaucoup, mais ça, on avait déjà ça dans le sang un petit peu. Et puis elle, de temps en temps, simplement, pour nous remercier, désire faire de la cuisine et nous faire goûter un petit peu les spécialités ukrainiennes. Donc hier soir, ce sont ces dames qui nous ont préparé un repas totalement ukrainien, avec un énorme gâteau à la fin. Et vous allez goûter, parce qu'il faut nous aider à le finir, en fait.
У нас ще картопля є тушкована.
Nous avons encore des pommes de terre cuites.
Et quand on est parti, il restait encore du gâteau, même si nous l'avons goûté. Il était très très bon. Notez que c'est temporairement que Natalia et les autres sont chez Hervé et Marc. La commune de Mamers leur a trouvé un appartement dans lequel ils emménageront la semaine prochaine. Voilà pour cette émission du 13-14 consacrée au pouvoir d'achat ici au Super U de Mamers. Façon pour nous de traiter et de parler de la campagne présidentielle. Évidemment, la campagne présidentielle, on en reparle ce soir dans le 18-20. Fabienne Sintès, entre 18 et 19h, la France vue par nos voisins, et dans le téléphone sonne entre 19h20 et 20h, en famille, entre amis, au boulot, au bistrot. Comment parlez-vous de la campagne présidentielle? Voilà pour le 18-20 de la rédaction de France Inter. Pour l'instant, dans quelques minutes, ce sera la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Et on a un peu plus de temps que d'habitude pour présenter votre émission Les Météorites aujourd'hui.
Eh bien j'en profite, on va partir dans le désert d'Atacama, le désert le plus aride du monde, pour partir à la chasse aux météorites.
C'est parfait, à tout à l'heure Mathieu Vidard.